Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Gaspard de Vobicourt.
Eh oui, le vendredi, c'est sport, foot, rugby avec vous, Gaspard.
Comme
en sport,
Philippe.
Je vous passe le relais.
Eh oui, merci
beaucoup. Merci
Philippe.
À vous, bonne soirée.
On vous retrouve lundi.
Eh oui, à lundi.
Dans les vraies voix, 17h-19h avec le retour de Christophe Bordet. Vous écoutez le 19h-20h sur Sud Radio. Une heure de sport, une heure de débat avec vous au 0826-300-300. Au programme ce soir, deux sujets. On parlera rugby, évidemment, avec la finale de la Coupe du Monde qui approche à grands pas entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Demain à 10h, avec une question au vu du niveau de jeu du 15 de la Rose, l'Afrique du Sud a-t-elle déjà perdu? C'est le débat qu'on vous propose ce soir sur Sud Radio en deuxième partie d'émission et qu'on vous énonce dès maintenant sur Facebook et Twitter. Philippe Spanghero, notre consultant rugby, et Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade français rugby, seront avec nous pour en débattre. Mais avant cela, on parle foot. Les supporters marseillais doivent-ils se préparer à une saison catastrophique? 0-826-300-300 pour répondre en direct à cette question sur Sud Radio. Avec moi ce soir, Augustin Moriot, journaliste Sud Radio.
Bonsoir
Gaspard, Augustin.
Bonsoir à tous.
Et il en fallait bien. Un supporter de l'OM nous accompagne ce soir en la personne de Romain Hamelot. Salut Romain.
Salut.
Alors je vous rappelle aussi que vous êtes ostéopathe du sport, comme quoi vous n'avez pas que des défauts finalement Romain.
Je suis là pour les défendre et je les défendrai coûte que coûte.
J'espère que vous ne vous occupez pas de Florent Thauvin.
Malheureusement non, pour lui.
On commence justement avec vous Romain. Marseille cette saison, c'est seulement 4 victoires, la 7e place du championnat, une élimination en Coupe de la Ligue face à Monaco. En tant que supporter, vous espérez quoi en fait?
Qui gagne ou qui joue, etc. ça pourrait être un bon début.
Ah, pour le moment,
non,
c'est pas le cas.
Non, ouais, c'est tout le problème, je pense que... On a le classement qu'on mérite et les défaites qu'on mérite. On est le match de hier, c'était hier Monaco, hier ou avant-hier. C'est les mecs sont voilà, ils jouent
un peu
pas,
mieux en deuxième mi-temps.
C'est un petit peu mieux le niveau de jeu et le niveau de jeu est au niveau des joueurs, je pense.
Plus de 40 défaites depuis plus d'un an. Franchement, Augustin, est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose de cet effectif ou vraiment l'OM, on doit l'enterrer cette saison?
En fait, c'est ce que j'allais vous dire, Gaspard. La vraie question, ça aurait été, est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de bien de l'OM cette saison? Parce que le renouveau d'André Villas-Boas, c'était très attendu. Alors moi, sincèrement, je n'enterre pas l'OM et je n'enterre pas cet entraîneur qui, pour moi, est l'entraîneur le plus adéquat à la situation.
Ah, on n'est pas d'accord.
Mais il tâtonne. Le problème, c'est qu'il arrive, il tâtonne, il prend un groupe malade, complètement malade. Il lui manque le joueur le plus important de la saison dernière, Florent Thauvin. Il a des joueurs, Dimitri Payet qui est vraiment pas convaincant, qui a l'air d'avoir un peu la tête ailleurs, et encore si des clubs le voulaient. Il a Benedetto, son attaquant vedette, qui est en manque d'efficacité, alors qu'il était absolument nécessaire, et je pense que c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt de ce début de saison marseillais. Et il le dit, c'est le niveau de la... heureusement que le niveau de la Ligue 1 est à ce point décevant.
Vous l'avez dit, hein, depuis un an, tous les secteurs du jeu de l'OM sont dans le rouge. Et pourtant, Romain, seulement 3 recrues cet été, l'arrivée de Benedetto qui fait un bon début de saison, faut pas se mentir. Mais il y a quoi de rire, franchement. Il y a de quoi en rire de ce Champions Project, non?
C'est ce que j'allais dire. Je comprends pas trop le projet de McCourt. Je pense qu'il veut essayer que ça devienne une entreprise un peu comme Monaco, où il veut essayer de former des jeunes, etc. Et ça prend du temps. Il met pas un copec sur un joueur ou sur quelque chose d'un peu solide pour que ce soit flamboyant. André Villas-Boas, pardon, ça a de la gueule, mais tout le reste, le pauvre Payet, il sait plus comment faire. C'est assez bizarre.
Le fait étant, c'est que ça n'a pas été tant discuté ni critiqué, mais on fait arriver un investisseur américain qui a peut-être jamais vu un match de foot de sa vie. Il vient du baseball, il avait coulé un club de baseball, ça faut s'en rappeler. Je pense qu'il utilise totalement le sport comme business et c'était un petit peu sa rédemption après cet échec. Il a une très très mauvaise image aux États-Unis, hein, Frank McCourt.
Ouais.
Il a une très très mauvaise image. Et puis il a appris Jacques-Henri Hérault, pardon, qui est pas mieux. Et lui aussi qui ne vient pas du milieu du football. Donc on a les deux têtes d'affiche de ce Champions Project ne viennent pas du milieu du football. C'est un réel problème.
Il y en a un pour le moment que tout le monde épargne, hein, dont vous, Augustin, vous l'avez dit il y a quelques minutes, c'est l'entraîneur André Villas-Boas. Mais excusez-moi de vous le dire, si quelqu'un arrive à me dire ce qu'il a apporté de plus que Rudy Garcia depuis son arrivée en début de saison,
faut me le dire, il n'a rien apporté à l'OM.
Alors, il arrive, je pense qu'il ne suivait pas forcément l'OM avant d'arriver. Ça, c'est une première chose.
C'est quand même grave. Justement, faut se renseigner un peu sur l'équipe.
Après, il l'a forcément plus fait qu'Antoine Comboiré. Je ne sais pas si vous avez vu cette perle qu'il avait sortie en arrivant à Toulouse où il n'avait pas vu un match de Toulouse de la saison. Non, je pense qu'il a quand même un peu suivi l'OM. Mais il arrive avec cette expérience qu'il a.
Et son parcours.
Enfin, voilà, il a des joueurs quand même qui sont très atypiques, puisqu'il a une ligne de défense qui est très technique. Boubacar Camara jouait en 6 pendant très longtemps les équipes de jeunes. Tchaleta Tchar, c'était pareil en Croatie. Donc il a des relanceurs qui ne sont pas vraiment des défenseurs. Il a des milieux, il a beaucoup trop de milieux qui en fait ont un peu tous le même profil. Et puis il a ses attaquants. Excusez-moi, mais moi, il y a quand même un problème avec Valère Germain. Enfin, je trouve que c'est un joueur.
Il est bien, ce joueur. Enfin, il peut marquer. Hein. Il peut planter un peu, mais
pour l'avoir vu déjà plusieurs fois sur un terrain, c'est quand même laborieux puisqu'il n'est même pas forcément bon dans les tâches auxquelles il se consacre défensivement.
Romain, le portugais, pour vous, c'est une plus-value pour l'OM ?
Oui, normalement oui, mais moi je pense que c'est un problème de joueur, c'est un problème de niveau technique des joueurs.
Pas l'entraîneur, donc là, c'est pas du tout la faute de l'entraîneur.
Ouais, ouais, comme c'était pas la faute de Rudy Garcia. Tu me rejoins là-dessus,
c'est ça ? Je vous rejoins sur le fait que ce n'est pas la faute de l'entraîneur, mais la faute des joueurs. Moi, il y a un joueur dont je suis convaincu et c'est plutôt une bonne surprise, c'est Valentin Rongier. Et encore,
il est pas mal.
C'était même pas fait initialement qu'il vienne. Hein, ça a été quand même chaotique.
Pas mal aussi.
C'est révélateur du recrutement
que
tu fais.
Ça a été une vraie honte absolue.
Millions pour Rongier. Certes, il fait une plutôt bonne saison avec l'OM, mais pour 20 millions, c'est pas quand même le top.
En plus, Kita est pas forcément le meilleur vendeur de toute la Ligue 1. Non, là, clairement, ils étaient tout seuls en fait sur ce joueur en fin de mercato. Ils ont fait pas une erreur, je pense, parce que c'est un élément qui certes est trop cher pour ce qu'il vaut, mais qui sera indéboulonnable dans le 11 de départ. Alors, mais il y a des joueurs qui posent réellement problème. Strootman fait un début de saison meilleur que l'année dernière, mais c'est quand même plutôt catastrophique tactiquement parlant. Il y a Maxime Lopez qui fait un bon début de saison, ça c'est plutôt convaincant.
Et Mandanda, on en a pas parlé.
Et Mandanda,
qui par rapport à l'année dernière, c'est.
Il fait toujours la même tête quand il se prend un but.
Je reviens sur André Villas-Boas. À part avec Porto, vraiment ça a été incroyable, des saisons incroyables pour lui. Il a gagné quelques titres avec le Zénith. À Tottenham, il a rien gagné. À Chelsea, c'était catastrophique. On peut pas dire qu'il soit dans les top 10 des entraîneurs européens.
Il n'est pas dans les top 10 des entraîneurs européens, ça c'est sûr. Mais si tu veux qu'on enterre Villas-Boas, on peut.
Est-ce qu'il n'a pas mieux fallu, je sais pas, un Laurent Blanc, par exemple ?
Ah si, bon, carrément.
La question, c'est est-ce que Laurent Blanc aurait été intéressé avec sa cohorte d'adjoints, etc.
En réfléchissant, je me suis demandé pourquoi il avait accepté André Villas-Boas de venir à Marseille.
Alors qu'il a refusé le PSG, on le rappelle. Hein.
Comment McCourt a fait pour le faire venir ? Est-ce qu'il lui a dit, pendant un an, j'ai pas d'argent pour t'acheter des joueurs, mais à un moment donné, ça va arriver. Il est obligé de. Enfin, je pense qu'il l'a appâté avec ça. Enfin, j'espère.
Moi, je pense que Marseille a quand même, malgré les résultats récents, une image européenne très très reluisante, et que c'est peut-être un des meilleurs publics européens. En tout cas, c'est le meilleur public français.
Ça, je suis d'accord.
Il arrive justement, et en plus, il arrive avec ce challenge de, il ne peut pas faire pire. Du moins, c'est compliqué de faire pire.
Et je pense qu'il arrive avec cette confiance. Faut que les supporters croient en lui.
Mais en championnat, en tout cas, c'était difficile de faire pire.
Vous pensez qu'il va finir la saison, vous, Romain ?
Je pense.
Finir la saison.
Ce serait bien qu'il finisse la saison. S'il continue à perdre, les supporters vont commencer à.
Après les deux matchs, on en a pas parlé, mais les deux matchs qui arrivent sont quand même cruciaux et à voir s'ils perdent.
Le calendrier a pas été facile. Hein. Paris, Monaco, Lille,
c'est
Lyon.
Le problème de Paris, c'est que quand tu passes chez eux, tu te prends une valise.
Mais s'ils gagnent pas un seul de ces matchs contre les gros, ça va être problématique quand même, Augustin.
Bon après, j'essaie de me souvenir la dernière fois de Marseille qui gagne contre un gros.
J'ai un trou. Romain, tu veux dire ça, c'est pour vous ça.
Non, on a un problème de. En plus au stade, y a beaucoup de pression, etc. Le public est exigeant, donc notre meilleur joueur, il a la cheville dans sa boîte à chaussures et le Payet, il est tout seul. Et Germain, moi je l'aime bien, Germain. Je pense que le public l'aime bien parce que
il marche bien avec un Benedetto efficace, mais là il est un peu dans un trou d'air. Enfin bon,
ce qu'il faut, c'est qu'il court et qu'ils aient envie de mouiller le maillot. Après, on peut pas avoir le PSG, on peut pas avoir les joueurs du PSG.
C'est sûr. Les supporters de l'OM doivent-ils se préparer à une saison catastrophique ? Vous êtes à 95% à dire oui sur Twitter. Romain vous a pas fait changer d'avis pour le moment. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre débat.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Gaspard de Vaubicourt.
Vous écoutez le 19h-20h sur Sud Radio, les vraies voix du sport, avec une question. Les supporters marseillais doivent-ils se préparer à une saison catastrophique? Avec pour m'accompagner ce soir Augustin Moriot, journaliste Sud Radio.
Bonsoir Gaspard,
bonsoir Augustin. Vincent Chaudel, économiste du sport, qui nous a rejoint. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Et toujours avec nous, le supporter marseillais du soir, Romain Hamelot, ostéopathe du sport. Alors demain, 17h30, Marseille reçoit justement Lille, qui est dans une dynamique, je vais y arriver, totalement différente, avec un bon match nul face à Valence en Ligue des Champions et une belle victoire 3-0 face à Bordeaux en championnat. Romain, est-ce que face à Lille, qui est quand même dans une spirale plus positive que l'OM en tout cas en ce moment, vous voyez l'OM faire un résultat demain ? À domicile.
Objectivement ou en tant que supporter ?
Objectivement, évidemment.
Objectivement, ça
parlons vrai sur Sud Radio.
Objectivement, ça va être très compliqué. Allez, voilà, la dynamique, le match nul en Coupe d'Europe. On ne sait pas. Après, c'est l'état d'esprit qui compte. Dans l'équipe, ils ont noté que le discours de Villas-Boas, c'était d'éviter les cartons jaunes, de préserver le groupe.
Sanson a dit qu'ils avaient gueulé dans le vestiaire. C'est ces termes.
Oui. Quand il a dit
à
ça.
À la mi-temps. Oh, ouais, à la mi-temps entre Marseille et Monaco.
C'est compliqué. Tu veux aller au charbon. On te dit, fais tranquille, par contre, parce que voilà, oui, on est 17. Faudrait pas qu'on se retrouve.
Il y a aussi, je sais pas ce que vous pensez, Vincent Chaudel, depuis en tout cas deux matchs. Oui, la première mi-temps, on n'a pas bien joué, mais la deuxième était bien contre Paris. Pareil contre Monaco. Avec un discours comme ça, on va pas loin, non ?
Je pense qu'il faut distinguer le discours devant les médias et le discours dans le vestiaire. Pour revenir sur la question de base, est-ce que les Marseillais doivent, ou les fans de l'OM doivent s'attendre à une saison galère ? Ils le savent au départ. Ils en sont conscients.
La bonne surprise serait dans l'autre sens.
Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la saison dernière, en une saison, ils ont perdu quasiment en déficit la moitié de leur budget, et qu'ils sont obligés de faire un deal avec l'UEFA par rapport au fair play financier, pour revenir à l'équilibre en 2021, on sait dès le départ que ça ne va pas être deux, trois saisons de rêve qui arrivent.
Justement,
en
Vincent,
revanche, je trouve intéressant, c'est que, je vous ai entendu parler tout à l'heure du coach, j'ai quand même l'impression que c'est, dans ce qu'on a commencé à voir sur le terrain, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Alors évidemment, le 4-0 fait mal dans la dynamique. On vient d'évoquer l'absence de profondeur de banc va être un problème quasiment toute la saison. En même temps, il n'y a qu'une compétition à jouer.
Oui, maintenant.
Non, il reste la Coupe de France. Il reste la Coupe de France.
Pardon.
Donc, voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Mais il faut éviter la sortie de route à la Steve McQueen, mais à part ça, ça devrait le faire.
Justement, Vincent Chaudel, vous qui êtes économiste du sport, le champion de ce projet, économiquement, ça va droit dans le mur, non ?
En fait, le problème, c'est de l'avoir annoncé comme ça. Parce
aussi
que,
flamboyant, c'est ça ?
Oui, mais c'est passé tout proche. La saison de la finale de l'Europa League, l'OM termine quatrième. Si l'OM termine troisième, ils sont en avance sur le plan de marche.
Oui.
Donc ça joue à pas grand chose malheureusement dans le sport comme dans beaucoup d'éléments de la vie, quand on est sur la ligne de crête on tombe facilement du mauvais côté. Donc il y a eu un pari qui a été fait de faire revenir des internationaux français. Ça coûte cher. C'était plutôt des trentenaires, parce que les internationaux français en pleine possession de leurs moyens sont trop chers et sont dans des clubs qui sont régulièrement en Champions League. On ne peut pas imaginer un Tolisso ou un Kanté.
Ils ne seraient pas venus à l'OM.
Non, mais ils ne seraient pas venus, évidemment. Donc, c'était forcément des trentenaires, forcément des gros salaires. Et ça a presque marché. Il y a eu, je pense, l'erreur Evra, qui coûte cher. Voilà.
Et pourtant, à Monaco, il y a quand même des bons joueurs qui viennent. On pense à Ben Yedder, à Slimani. C'est des joueurs que l'OM aurait pu se payer finalement, non, Augustin ?
Oui et non.
Pardon, allez-y Vincent.
Oui et non, parce que Monaco, il y a quand même un sujet de fiscalité.
Oui, oui. Il y a aussi ça, c'est vrai.
Ah bon ?
Moi, je vais peut-être y aller. non,
mais... Ça peut être une bonne idée.
C'est assez... c'est catastrophique. Enfin, 6-7e, c'est pas catastrophique non plus. Enfin,
pour vous, c'est une bonne saison ?
Avec les joueurs qu'on a... moi, 6-7e, première partie de tableau, on va dire, en étant très, très sympa. Voilà, c'est pas une saison catastrophique.
Puis ce début de saison, de toute façon, n'est pas à prendre en compte en termes de classement. Quand on voit Lyon qui est 15e et encore à 4 points de la 3e place, on se dit.
Il y a 10-12 équipes avec voilà, 5 points, c'est ça. C'est pas non
on
plus,
se dit que c'est pas révélateur. Il faut pas regarder le classement, mais en revanche, il faut regarder les intentions. Et puis je voulais juste relever quelque chose, c'est que dans le Champions Project, il y a eu un changement de discours, puisqu'initialement, il venait. En tant que grand investisseur américain, avec la volonté de concurrencer le PSG. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué sur les mots Champions, donc champion de Ligue 1, puis après Champions League. Et puis ça, ça n'a pas marché encore, donc peut-être que le prochain, ce sera Coupe de France Project.
Il y a de quoi en rire quand même, Romain.
Ouais, bah oui, j'en ris, mais bon, j'ai pas le choix. Non, non, c'est combien il a mis d'argent là, depuis qu'il est là ? Un bon paquet, mais.
Bah oui.
Pas tant que ça.
Bah, c'est-à-dire
par
que
rapport à ses intentions, il, j'entends pas.
Au départ, il a mis ce qu'il avait promis de mettre. Entre temps, il a revendu là. Quand on termine à plus de 80 millions d'euros de déficit, il a bien fallu vendre dans le mercato d'été. Donc, entre la mise de départ où on était sur une base de entre 50 et 100 millions d'euros par an, et si on regarde la balance entre ce qui a été vendu depuis. On n'est pas loin des 150 millions d'euros déjà investis.
Hein. Alors, Augustin Morio, il y a un homme aussi qui manque beaucoup à l'OM, hein, c'est Florian Thauvin, blessé à la cheville, cheville droite depuis septembre, il n'est toujours pas de retour. Avec un retour de Thauvin, cet OM, il aurait quand même une autre gueule, hein, excusez-moi du terme.
Bah, c'est bien simple, là quand on regarde au plus court terme possible le match de Lille, André Villas-Boas a avoué en conférence de presse qu'il voulait installer un 4-3-3 pour concurrencer le 3-4-3 de Lille. Bon, c'est des petits termes tactiques, mais et là on voit qu'en fait, il y a un joueur qui manque, c'est l'ailier droit. Et finalement, il a joué avec Germain, ailier droit contre Monaco. C'est pas son poste.
Non, il n'a pas le niveau. Enfin, il n'a pas le niveau. C'est pas Thauvin.
Et c'est là qu'apparaissent les carences. Et puis, Florian Thauvin, même s'il n'est pas toujours flamboyant dans les grands rendez-vous, ça reste, il faut le rappeler, le Français le plus décisif de l'année civile 2018. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un client. Je pense qu'il a gagné énormément confiance en plus en équipe de France. Il a fait quelques matchs amicaux et des rencontres d'éliminatoires pour l'Euro. C'est un joueur qui prend confiance et là je pense que quand même ça va être très compliqué de le retenir cet été et ça va être encore un gros problème financier puisqu'il lui restera plus qu'une année de contrat.
Ouais, mais justement Romain Hamelot, vous qui est supporter de l'OM, Augustin vient de le dire, il était dans une très bonne dynamique avant sa blessure. Est-ce que justement cette blessure ne va pas stopper cette dynamique et on va avoir un Florian Thauvin qui va avoir du mal à revenir physiquement et qui va être bon peut-être vers le mois de mars-avril quoi.
Ouais, je pense qu'il a le couteau entre les dents là après le début de fin d'année 2019 etc. Là je pense qu'il attend qu'une chose c'est d'y aller mais avec la fragilité qu'il a avec sa cheville faut essayer de parvenir trop tôt donc voilà mais non au moment où il sera bien je pense que là il va porter c'est lui qui peut porter l'équipe et l'élan psychologique l'élan de la gagne quoi.
Vincent Chaudel.
Si on veut faire abstraction du 4-0 de Paris, du PSG parce
s'il vous
que
plaît.
Les choses se présentent pas si mal que ça pour l'OM. Lyon perd beaucoup de points, n'est pas dans son rythme de croisière. Monaco a eu beaucoup de mal à démarrer.
Ils reviennent tellement fort que je pense que là
beaucoup de mal à démarrer. C'est maintenant effectivement que Marseille doit ne plus perdre trop de points par rapport à ses gros concurrents. Le fait que Nantes ou que Reims tournent bien, c'est entre guillemets un épiphénomène, ça devrait l'être en tout cas. La saison, peut-être plus difficile par rapport à Nantes, mais normalement, Marseille devrait passer devant Reims. Donc le vrai sujet, effectivement, c'est est-ce que Marseille saura donner du temps à Thauvin pour rentrer ce que le PSG a fait avec Mbappé, mais ils n'ont pas le même banc. Aujourd'hui, l'OM, avec ou sans Thauvin, c'est pas la même chose.
Pas du tout. Ouais.
Thauvin, moi, je suis d'accord aussi. Quand il va rentrer avec le couteau entre les dents, parce que s'il doit partir, il doit faire une deuxième
D'autant
partie
plus.
De saison impactante. Il avait bien commencé, malheureusement, ça s'est arrêté très vite pour lui. Donc là, il doit marquer des points dans l'esprit, il doit se montrer. Et comme il ne pourra se montrer qu'en championnat, il devra faire feu de tout bois. Donc, à ce niveau-là, on peut être assez serein. Le sujet, c'est effectivement les 2-3 matchs qui arrivent, ne pas perdre trop de points en route.
Augustin Morio, vous êtes d'accord avec Vincent?
Je suis totalement d'accord, surtout qu'il y avait quand même 95% de chance cet été pour que Thauvin parte. Hein. Il y avait des offres de Valence, d'Italie, peut-être de Naples. Il avait complètement la tête ailleurs. Il avait d'ailleurs fait des interviews où il disait clairement qu'il voulait partir de Marseille. Et on connaît les jurisprudences, on va éviter de parler de Neymar et consorts, mais retenir un joueur contre son gré dans un club n'est jamais bon, surtout pour un joueur qui peut souffrir du syndrome post-Coupe du Monde.
Il n'a pas le choix, il doit briller.
Ah bah bien sûr.
S'il veut partir.
Mais comme vous l'avez dit très justement, il n'y a que la Ligue 1 pour briller, et cette saison, c'est peut-être pas le meilleur championnat pour briller. Mais à voir, après, j'ai vu que c'est la petite nouvelle du jour, la petite rumeur, Christian Gourcuff va peut-être accueillir Ben Arfa à Nantes. Pourquoi pas voir Nantes rester sur une bonne dynamique. Je me méfierais quand même un petit peu de Reims parce que c'est des équipes assez insupportables à jouer. Ils passeront peut-être pas l'hiver, mais en tout cas l'hiver qui arrive est peut-être fatal aux Marseillais.
Le Rémois que je suis est ravi de voir le Stade de Reims là. C'est juste sur la saison, on se dit que Stade de Reims dans le top 5. C'est probablement être au-delà du 100% de...
Ils vont faire une Leicester.
Tout dépend des blessures, tout dépend de la profondeur de banc. C'est intéressant quand les pauvres se blessent, mais sinon sur la longueur ça peut tenir.
Vincent Chandel, on parlait du probable départ de Florian Thauvin de l'OM. On sait le mercato d'hiver arrive. Est-ce que l'OM a les moyens d'acheter un ou deux joueurs au mercato hivernal pour se renforcer?
Il y a deux choses dans votre question, c'est est-ce que le propriétaire a les moyens de dire je remets de l'argent sur la table, et est-ce que dans une vision moyen terme, c'est-à-dire où je veux retrouver la Coupe d'Europe, je ne vais pas être embêté par rapport à l'UEFA et le fair play financier. Donc sur le premier point, a priori il a encore une marge, même si on a vu que ce mercato d'été a été plutôt un mercato de vente que d'achat. On a parlé aussi de l'intérêt de certains fonds du Golfe par rapport à l'OM. Donc l'OM est de toute façon un des grands clubs français. C'est avec Paris, peut-être Lyon, mais au moins Paris, la locomotive du championnat.
Il y a Lyon aussi quand même, même si c'est un peu moins bien.
Lyon sportivement, oui, mais moi je parle de locomotive de médiatique notamment.
Lyon en Europe, en tout cas pas dans le monde, ça je suis d'accord, mais en Europe est très très bien vu.
Je ne parle pas de la réputation, je parle de l'audience, des fans.
Il y a un supporter économique.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que, juste un indicateur, si vous regardez la taille des réseaux sociaux, vous allez voir le potentiel économique des clubs. Le PSG, tous réseaux sociaux confondus, c'est 75 millions de fans à peu près, et vous allez comprendre pourquoi le Nike met 80 millions d'euros sur la table. L'OM, c'est autour des 15 millions et on comprend à peu près pourquoi Puma met ce montant-là.
Oui, donc, et puis avec ces dernières saisons en demi-teinte, forcément, les sponsors mettent moins d'argent.
Oui, et on se dit que l'OM, qui retrouverait une dynamique sportive, arriverait forcément à passer la barre des 20 ou 30 millions de fans à une horizon assez proche. L'OL n'arrive pas à passer la barre des 10 millions pour l'instant. Donc l'OL, c'est plutôt un club dont les fans restent dans la région Rhône-Alpes. Peut-être un peu au-delà. Non, mais la vérité, c'est ça.
Augustin Morio, supporter lyonnais.
Ah oui, je me disais depuis tout à l'heure, Lyon.
Mais
objectivement, mais c'est bien que vous soyez là pour donner des termes concrets.
Mais alors que Paris-Marseille, on aime ou on déteste. En tout cas, on regarde parce qu'on a envie de les voir gagner ou de les voir perdre selon les uns les autres. Mais partout en France, par contre.
C'est vrai. Et puis il y a pas ce côté il y a que justement chez l'OM et le PSG où il y a ce côté multinational avec des matchs en Chine délocalisés, des maillots en Chine pour le nouvel an chinois, etc., etc. Il y a aussi ça.
Oui, c'est vrai.
Il y a moins ça du côté de l'Olympique Lyonnais, par exemple.
Lyon a fait des gros partenariats en Corée du Sud pendant quelques années. Si Lyon travaille bien, c'est moi le sujet.
Jean-Michel Aulas,
Lyon travaille bien, mais Lyon pâtit d'une aura qu'il n'a pas.
Non, mais c'est vrai que la réputation peine à franchir les frontières, et même si économiquement le modèle est, je pense, l'idéal.
Ah oui.
C'est vrai qu'ils pâtissent d'un déficit de notoriété, peut-être déjà par rapport à l'histoire, qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années concrètement. Et puis Marseille a quand même cette Ligue des Champions, qui, quand on le regarde sur le papier des trophées, il y a quand même un rayonnement, c'est le seul club français. Et je ne sais pas si vous avez vu cette carte d'ailleurs de l'Europe, en fonction du nombre de Ligue des Champions gagnés par les clubs et le nombre de clubs différents qui ont gagné.
La France n'est pas très
bien. Et là, c'est la honte.
Merci à vous. Les supporters de l'OM officiel doivent-ils se préparer à une saison catastrophique? C'est la question qu'on vous a posée entre 19h et 19h30. Et vous avez répondu oui à 96%. Dans un instant, on va parler rugby avec la deuxième question de la soirée. Finale de la Coupe du Monde de rugby, l'Afrique du Sud a-t-elle déjà perdu? On vous attend au 0826 300 300.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Gaspard de Vaubicourt.
Vous écoutez le 19h-20h sur Sud Radio. Après le football, il est temps de parler rugby avec, pour m'accompagner ce soir, Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade Français Rugby. Bonsoir Jim.
Bonsoir à tous.
Philippe Spanghero, notre consultant rugby, est avec nous ce soir. Salut Philippe.
Salut à tous.
Toujours avec nous jusqu'à 20h, Augustin Morieux, notre journaliste maison.
Bonsoir.
Vincent Chaudel, économiste du sport. Romain Amelot, ostéopathe du sport. Et vous au 0826 300 300, avec notre deuxième débat, finale de la Coupe du Monde de rugby. L'Afrique du Sud a-t-elle déjà perdu? Philippe, je vais commencer avec vous. Quand on voit le niveau de jeu des Anglais depuis le début du Mondial, qui est proche de la perfection, il faut le dire, et celui des Sud-Africains, qui est beaucoup moins impressionnant, pour demain, c'est joué d'avance, selon vous?
Alors, c'est jamais joué d'avance parce que c'est une finale de Coupe du Monde et ce serait très prétentieux de dire qu'on connaît le vainqueur. Mais c'est vrai que les Anglais ont impressionné tout le long de la compétition. Et puis, en plus, dans l'inconscient collectif, sortir les Blacks de cette manière, c'est rarement arrivé. Donc, forcément, on se dit que les Anglais sont favoris. Après, en termes de production de jeu, ils ont été bien au-dessus de ce que nous ont montré les Sud-Africains. Mmh. Moi, ce qui va m'intéresser demain, c'est de voir comment les Anglais vont s'adapter à la densité physique proposée par les Sud-Africains, parce qu'on a vu, au-delà de la qualité de la stratégie du fond de jeu anglais, on a surtout vu qu'ils dominaient physiquement tous leurs adversaires. Ça a été assez flagrant contre les All Blacks, ce qui m'a surpris d'ailleurs, mais à quel point ils ont dominé les All Blacks physiquement. Et pour moi, les Sud-Africains sont les seuls à pouvoir rivaliser face aux Anglais sur cette densité physique que les Anglais proposent. Et là, ce sera intéressant, si les Sud-Africains répondent présents sur ce secteur de jeu, de voir comment les Anglais vont réagir à ça.
Romain Amelot, vous êtes d'accord avec Philippe Spanghero, c'est pas gagné d'avance pour les Anglais?
Non, c'est pas gagné d'avance, mais comme il a dit, c'est de sortir les Blacks de cette manière-là.
C'est incroyable, hein, quel match incroyable. Alors que, on le rappelle, l'Afrique du Sud a eu une demi-finale. C'était vraiment pas top le niveau de jeu face au Pays de Galles. On s'est quand même bien ennuyé. Hein.
Et comme les Néo-Zélandais ont battu les Gallois ce matin, va falloir pas rater le début du match. À mon avis, ça va taper sec.
Alors, c'est pas la première fois que les deux équipes se rencontrent, hein, dans la compétition. 4 matchs au total entre 1999 et 2017, avec Jim, 3 succès sud-africains contre seulement 1 pour les Anglais. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer mentalement sur le casse dans la rose?
Oui, bien sûr. Et puis, faut pas oublier que les Sudaf ont fait une très belle performance lors du Four Nations de cette année. Mmh. Hein, ils ont quand même été présents. Ils ont bien prouvé qu'ils étaient préparés. Ça va bastonner. Devant, c'est très très costaud. Ça va bastonner. Derrière, je pense que ça l'est un peu moins, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur les Anglais. Mais attention, il y a quand même de très beaux ailiers. Je parle de Colby en l'occurrence.
De ma pipi. Hein.
Exactement, qui a fait une très belle Coupe du Monde.
Qui est le meilleur marqueur d'essai, il me semble.
Exactement, et Colby, qui n'a pas joué la demi, arrive bien, bien lancé pour la finale. Je vois bien performer lors de cette finale.
Philippe Spanghero, on se rappelle tous de cette finale perdue par les Anglais face à l'Afrique du Sud en 2007 au Stade de France, alors qu'ils remettaient leur titre en jeu. Est-ce que vous pensez que les joueurs actuels qui étaient supporters de leur nation à cette époque ont toujours cette défaite en tête et que ça peut être une motivation supplémentaire pour demain, Philippe?
Oui, ils ont cette défaite en tête comme beaucoup d'autres, mais je crois que au-delà de ça, bon, la motivation des Anglais, elle est là,
mais est-ce que ça peut être une motivation en plus?
Je crois pas, mais en tous les cas, les Anglais, on les sent quand même très très sereins et maîtres de leur sujet. Donc, je crois pas qu'ils aient besoin d'aller chercher des sources de motivation supplémentaires. C'est vrai que le discours d'Eddie Jones, dont on parle beaucoup, qui a quand même réussi à transformer cette équipe anglaise. Alors, avec le travail, c'est un peu cruel tout ça, parce que en 2015, ils sortent en poule chez eux lors de leur Coupe du Monde. Oui. avec comme sélectionneur Stuart Lancaster, qui a fait les frais quand même de cette élimination et dont on parle plus beaucoup, mais qui avait quand même posé les bases de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Les Anglais ont su travailler dans la durée, traverser des tempêtes, continuer à travailler en gardant le cap. Et aujourd'hui, ça leur sourit. Mais c'est vrai que le discours d'Eddie Jones cette semaine, qui est de dire mais pourquoi on s'interdit de rêver au match parfait, pourquoi on ne saurait pas jouer à la perfection pendant 80 minutes. C'est vrai que j'ai jamais trop entendu ça dans le rugby, parce qu'on parle toujours de maîtriser l'entame, oui, d'assurer le score, de gérer les temps forts, les temps faibles. Là, le discours d'Eddie Jones, ça peut paraître très prétentieux, mais c'est de dire, ben, moi j'ai envie qu'on dise qu'on aura zéro temps faible et qu'on gérera que des temps forts et que pendant 80 minutes, on va faire le match parfait. Mmh. Et je crois que les Anglais sont quand même conditionnés à ce discours-là depuis longtemps. Et on a vu contre les All Blacks une domination qu'on avait rarement vue à ce niveau-là.
Vincent Chaudel, vous êtes d'accord avec Philippe Spanguero ?
Oui, avec moins d'éléments techniques bien évidemment, mais les Anglais ne sont jamais aussi forts que quand ils sont favoris. Et c'est l'inverse pour nous Français.
C'est pas faux. Ouais.
C'est notre histoire en permanence, mais je crois que les Anglais n'ont pas accès au doute au moment où on se parle. Probablement que leur défaite de 2007 est un surplus d'énergie, mais que ils veulent le faire. Et à ce niveau-là, il y a pas beaucoup plus dangereux que des Anglais convaincus de leur supériorité.
Augustin Morio, une défaite demain après une telle Coupe du Monde, ça ferait quand même un peu tâche pour les Anglais.
Bah oui, surtout que là, ils se perdent un tout petit peu en arrogance anglaise quand même, parce que quand on regarde la conférence de presse d'Eddie Jones, il a quand même dit on est relax, les joueurs savent qu'ils ont fait le travail au passé composé, hein. Il faut conclure. Donc on dirait un petit peu que leur finale c'était l'All Blacks, mais ils oublient qu'en face, il y a peut-être l'équipe la plus forte physiquement de ces dernières années. Ils sont pas dégoûtants physiquement non plus, hein, mais il y a quand même une sacrée équipe qui paraît très pas si belle que ça à avoir joué, mais qui dans le fond a quand même, pour moi, le plus impressionnant, c'est la charnière Faf de Klerk et le numéro 10 sud-africain, qui sont quand même des joueurs exceptionnels. Faf de Klerk, qui est un demi-mêlée très puissant, qui va tout le temps au contest aller gratter des ballons, c'est presque un 9e avant. Et puis il y a ce numéro 10 qui va toujours jouer au pied, Ça peut être attention, un match à risque.
Jim Goulard, en même temps, quand on voit le niveau des Anglais face aux All Blacks en demi-finale, on se dit que demain c'est pas possible. Ils sont obligés de gagner.
C'est un match référence.
Alors oui, après évidemment, c'est une finale, donc il peut tout se passer. Mais sur le papier, il y a clairement pas photo, non?
C'est une finale sur un match, il peut tout se passer, mais effectivement. On pense tous que l'Angleterre, avec le match référence contre les Blacks, ils ont marqué le rugby mondial, ça c'est évident. Partition parfaite devant des gros qui ne se consomment plus trop dans les phases statiques du type rock ou maul, mais qui viennent plutôt en défense sur un second rideau. Et derrière, l'astuce d'Eddie Jones qui fait basculer Farrell en 12, de jouer à deux ouvreurs. À ce niveau-là, on sent la touche du sélectionneur et ça fait la différence. Et ça, je crains que ça fasse la différence demain.
L'Angleterre va gagner la finale de la Coupe du Monde. Peut-on déjà l'affirmer ? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur Sud Radio. Et vous êtes 63% à penser que l'Angleterre va justement gagner demain et donc être champion du monde. Une finale, on le rappelle, à suivre demain sur Sud Radio avec Xavier Barré.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Gaspard de Vaubicourt.
Les vraies voix du sport avec vous en direct jusqu'à 20h00, 826 300 300 pour prendre la parole avec ce soir pour m'accompagner Augustin Morio, journaliste Sud Radio.
Bonsoir Gaspard, bonsoir à tous.
Vincent Chaudel, économiste du sport. Bonsoir. Romain Hamelot, ostéopathe du sport et supporter de l'OM, on le rappelle.
Le sujet rugby là.
Oui, mais bon, c'est pas grave, on le rappelle. Philippe Spanguero est toujours avec nous, notre consultant rugby sur radio. Et Jim Goulard, membre du comité directeur du Stade français rugby, avec une question, la finale de la Coupe du Monde de rugby est-elle déjà donnée à l'Angleterre demain? On le rappelle, finale à 10h. Vous êtes 54% à dire que oui, c'est les Anglais qui vont gagner à la Coupe du Monde. Une finale, on le rappelle, à suivre demain sur Sud Radio avec Xavier Barré. Justement, Philippe Spanguero, rentrons dans le vif du sujet. À quel compo il faut s'attendre pour demain? Est-ce qu'il y aura des changements par rapport aux demi-finales?
Alors, a priori, non, il n'y a pas de changement, si ce n'est, on le disait, côté Sudaf, le retour de Colby, qui est un vrai atout dans la ligne d'attaque, c'est un match winner. Les Sud-Africains, dans leur ligne de trois quarts, ont besoin de lui pour faire des différences. C'est vraiment un joueur qui peut créer des différences importantes, sinon pas de changement à prévoir.
Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué sur Sud Radio, c'est les primes pour les joueurs en cas de victoire finale. 100 000 euros par joueur, autour de 100 000 euros par joueur en cas de victoire demain, que ce soit pour les Anglais ou les Sud-Africains. Ça peut être une source.
C'est beaucoup plus élevé que ça côté anglais.
C'est combien côté anglais, Philippe, pardon?
Côté anglais, ils ont déjà sécurisé un peu plus de 150 000 euros.
Plus les 100 000 pour la finale.
Ils ont eu un modèle de prime tout au long de la compétition.
Oui, je parlais si jamais ils gagnaient la finale en plus.
Les Sud-Africains, c'est 100 000 s'ils gagnent la finale. Il n'y a pas eu de prime.
De prime avant, en fait, c'est ça.
Donc c'est quand même énorme. On est rentré, on voit qu'on rentre quand même de plein pied dans l'ère du professionnalisme parce que en cas de titre de champion du monde, les Anglais toucheront quand même un peu plus de 250 000 euros de prime par jour.
Ça peut être une source de motivation supplémentaire, selon vous, Vincent?
Si j'augmente votre salaire de 100 000, ça sera...
Oui, mais est-ce que dans la tête des joueurs pour une finale de Coupe du Monde, on pense à ça?
Je pense pas. Je pense qu'on peut demander à Tony Parker si sur une finale NBA, il pensait qu'il gagnerait plus d'argent. Je pense que ce qu'il voulait, c'était Hamilton en Formule 1 et autres. Je pense que l'argent pour ces sportifs-là est une conséquence, mais ce qu'ils veulent... c'est marquer leur sport, à mon avis. Hein. Je suis pas dans le vestiaire, mais évidemment que il y a un temps pour tout et les agents savent bien négocier pour eux. Non, si on va sur ce sujet-là, moi ce que je remarque sur cette Coupe du Monde-là, si je reprends mon indicateur de réseaux sociaux, c'est qu'il y a plus de grandes stars mondiales en dehors du monde du rugby. Il y a pas de John Alumu. Le rugby est orphelin d'un Wilkinson, d'un Alumu,
d'un Carter.
Mais
il est plus là.
Mais voilà. Donc si la Coupe du Monde a été un succès pour le World Rugby. Non mais
il y a quand même Owen Farrell qui est, je pense.
On n'a pas envie que ce soit une figure, mais oui, c'est vrai.
Mais juste. Allez, amusez-vous, allez voir les réseaux sociaux.
Ouais, c'est
Owen Farrell, c'est dans la famille du rugby. Ça s'arrête là aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, la Coupe du Monde du rugby a permis d'accueillir un nouveau pays qui est le Japon, qui s'est montré compétitif. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, reste à trouver une star. Alors peut-être que un super match demain permettrait d'aller chercher ce surplus. Et après, les euros ou les livres ou les dollars suivront.
Romain Hamelot, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre prono pour demain entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, avec pour vous peut-être la clé du match. Qu'est-ce qui va faire la différence selon vous?
Prono, on prenait un peu de cours là, mais c'est...
Match nul entre l'OM et
le score exact.
Non. Voilà, c'est ça, moi je veux
victoire, balancer victoire des Anglais ou victoire des Sud-Africains.
Écoute, moi je voyais la Nouvelle-Zélande mettre 30 pions aux Anglais, donc comme je me suis trompé là, j'ai...
De rien.
Mais bon, de rien. Non, je vois quand même les Anglais gagner dans leur tactique, dans leur par rapport aux Sud-Africains, leur rigueur tactique et leur puissance mentale, surtout, je pense.
Jim Gueulard, vous êtes d'accord avec Romain?
Moi, je vois effectivement des Sudaf accrocheurs. Ils lâcheront rien jusqu'au bout, ça c'est évident. Et je vois une courte victoire pour l'Angleterre, mais de quelques points, c'est-à-dire un petit 28-23.
Augustin Morieux, vous pensez, donc personne autour de la table pense que l'Angleterre va vraiment exploser l'Afrique du Sud demain en finale et avec un score fleuve?
Vous êtes en train de créer des bocs émissaires. Moi je vois un match assez fermé, un peu à l'image des finales qu'on a vues pendant les Coupes du Monde, et je vois un 15-13 pour l'Afrique du Sud. Allez.
Vincent Chaudel, j'ai pas eu votre prono, mais si j'écoute en tout cas les personnes autour de la table, on a l'impression qu'on va retrouver demain un peu le match qu'on a eu entre l'Afrique du Sud face au Pays de Galles finalement.
Oui, ça va être le cercle des poètes disparus. Ça, c'est clair que les infirmiers ont intérêt à faire une bonne nuit parce qu'ils vont avoir du travail. Puisqu'à chaque fois que je viens ici, mon pronostic est...
bon ?
Non. Ah. Donc, comme je pense que ça va être l'Angleterre, je vais annoncer Afrique du Sud 23-19.
Donc vous espérez que l'Angleterre gagne finalement?
C'est ce que je pense, mais je vais...
Vous avez pronostiqué l'Angleterre pour que les Sud-Africains... peut-être battre les Anglais, on ne sait jamais.
On pourrait.
Philippe Spanguero, vous en pensez quoi, vous?
J'en pense, comme je disais en préambule, que ça va être un match fermé, d'une violence assez rare dans les 20 premières minutes au moins. Et je vois aussi un score fermé parce que je vois pas les Anglais prendre le dessus physiquement de façon aussi importante que contre les Blacks. Donc je vois aussi quand même malgré tout les Anglais l'emporter. Je trouve que ce serait bien et mérité par rapport à leur parcours. Mais je vois une courte victoire 21-16.
Merci pour votre pronostic, Philippe Spanguero. En tout cas, la finale est à suivre demain avec Xavier Barré sur Sud Radio en direct à partir de 10h. J'avais envie de vous poser une dernière question donc pour finir cette émission. Jim Goulard, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on a eu une belle Coupe du Monde? Est-ce que cette Coupe du Monde au Japon a été belle? Est-ce que vous avez pris du plaisir en la regardant?
Vous avez 4 heures.
Je vais être beaucoup plus rapide, mais moi je trouve que ça a été une magnifique Coupe du Monde avec des très 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 belles révélations. L'Angleterre, sublime. Aujourd'hui, c'est la nation de l'hémisphère nord qui fait honneur à ce rugby, hein, par un rugby sublime, notamment pratiqué devant des champions, double champions du monde qui sont les All Blacks. Et magnifique Coupe du Monde.
Finalement, Romain, peut-être le seul match qui était un peu en dessous des autres matchs, c'était donc cette demi-finale entre l'Afrique du Sud et les Pays de Galles. C'est vrai que les autres matchs ont été plutôt...
France-Angleterre qui était décevant.
Plutôt agréable à suivre, ce France-Angleterre qui nous a fait défaut. C'est vrai que ça aurait été beau de voir les Français voir ce que ça donne face aux Anglais, Romain.
Ouais, on saura jamais, mais oui, à part ce fameux match, ouais, tous les matchs étaient super beaux. C'était bien de voir dans les matchs de poule les équipes un peu plus faibles, la Namibie, la Russie, je me trompe pas,
l'Uruguay.
L'Uruguay, c'est ouais, c'est
et le Japon,
le Canada qui a fait
une très belle Coupe du Monde.
Hein. Et j'allais dire, ouais, alors évidemment, les Anglais, c'est respect, c'est voilà, faut essayer de s'inspirer, en tout cas, de prendre des leçons et de regarder ce qu'ils font et de se mettre au travail. Les Japonais, c'était formidable. Arriver à faire cette Coupe du Monde-là chez eux, et le niveau de jeu qu'ils ont, c'est les matchs que j'ai eu le plus de plaisir à regarder, hormis les quarts de finale
et la demi, qui était face au All Black.
Qui était exceptionnel, et le super match des Français, même si on perd.
Jim, allez-y.
Si je peux faire un petit rajout à ma réponse, le seul hic que j'ai à émettre, c'est le pays organisateur. Quand on organise une Coupe du Monde au Japon, alors qu'on sait qu'il y a des typhons et que des matchs ne vont pas jouer, il y a un problème quelque part.
Est-ce que justement, Augustin, ça n'a pas apporté préjudice un peu à cette Coupe du Monde? On aurait aimé, nous, voir le match des Français face à l'Angleterre.
Bah, je trouve que ça a été purement météorologique, parce que j'ai trouvé ça très intéressant de voir l'engouement des Japonais autour de leur équipe et puis autour du rugby en général. Ça permet économiquement, Vincent Chaudel en est témoin, de développer un sport qui quand même peine à franchir ce cap. Et puis moi, j'ai bien aimé me lever le matin à 10h et passer une bonne journée après un bon match. Je ne sais pas si vous avez essayé de regarder un match avec un brunch irlandais. Bah, c'était très agréable. Et ça a changé, c'était original. Donc oui, c'était une belle Coupe du Monde.
Ça m'a rappelé la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande où la finale...
À 9h.
À 9h, la Heineken à 9h, ça pique un peu.
Mais bon, tant pis, on fait des efforts.
Exactement, il faut supporter ça.
Les 10 Heineken après le match.
À Vincent Chaudel, qu'est-ce qu'il évoque cette Coupe du Monde pour vous?
Il y a beaucoup de choses ont été déjà dites. Effectivement, le rugby, c'est le rugby à 15, parce que le rugby à 7, avec les JO, se développe plus vite. À 15, c'était compliqué. Moi, j'ai pas eu souvenir d'avoir des scores fleuves à plus de 100 points cette année. Comme il y a pu y avoir.
Il y a une claque sur le Canada, il me semble, Nouvelle-Zélande-Canada, qui a été une claque, mais hormis ça.
Voilà, donc. Comme on n'est pas encore au football, au stade du football où on dit qu'il n'y a plus de petites équipes, mais on commence à avoir des places fortes ou des places. L'Écosse qui perd, l'Irlande qui perd. Enfin, on n'aurait pas misé beaucoup au départ de la compétition. Donc, ça, je pense que c'est important et intéressant pour World Rugby. Le Japon a réussi sa Coupe du Monde en tant que pays organisateur. Malheureusement, pour nous, Européens et Français en particulier, et TF1 pour être encore plus particulier, le crunch annulé pour cause de typhon. Et là, si on peut critiquer l'organisation, c'est dire on sait qu'il y a des typhons cette saison-là, on doit imaginer des plans B avant que ça n'arrive. Il y a bien eu un plan B finalement pour le match Japon-Écosse. On aurait pu imaginer ça.
J'ai parlé hier avec des supporters français qui étaient sur place pour le match. voir supporter l'équipe de France contre l'Angleterre, bah, qui sont restés au pub à boire du saké. Quoi.
C'est... Ils ont été remboursés ?
C'est en cours, c'est en cours, c'est hyper long, de toute façon, ça va se faire. Mais...
Finalement, Philippe Spanghero, est-ce que le seul regret qu'on a pour cette Coupe du Monde, la seule tâche, c'est l'élimination de l'équipe de France ?
Alors on peut le voir comme un regret ou un move de soulagement, parce qu'on était quand même tous très inquiets de l'éventualité que la France sorte pas de poule, vu le niveau qu'on avait proposé avant la compétition. Donc finalement, du côté français, on s'en sort plutôt par le haut, parce qu'on évite ce match contre les Anglais qui aurait pu honnêtement nous faire mal au moral quand on voit le niveau que propose l'Angleterre. Mmh. Et puis ensuite on a ce match contre le Pays de Galles où on se rassure en se disant que voilà, sans le carton rouge de Vahamina, on aurait été en demi-finale, ou enfin qu'on méritait d'y être en tout cas, et c'est vrai. Donc finalement on finit sur une note plutôt positive, avec un match assez abouti, beaucoup d'envie. Donc j'aime mon équipe de France, mais j'aime aussi le rugby, et c'est vrai que j'ai trouvé que ça a été une belle compétition. On a échappé au pire d'un point de vue climatique, parce que on a failli louper ce Japon-Écosse qui a été quand même un des grands moments de cette Coupe du Monde, et qui aurait pu vraiment avoir des incidences là pour le coup en termes de classement d'équipe en phase finale. Et là, on serait rentré dans des discussions un peu différentes, et qui auraient été quand même beaucoup moins sympas, qui auraient noirci un peu le tableau. Mais ça restera une très belle édition, et je pense que les acteurs du rugby, là, j'ai vu une nouvelle passée disant que le rugby français, avec la Ligue nationale de rugby, avait proposé d'accompagner la structuration du championnat de club japonais. Je pense que tous les grosses nations mondiales vont regarder de plus en plus vers le Japon.
Merci Philippe Spanghero, excuse-moi je vous coupe et on arrive à la fin de cette émission. Merci à Augustin Morio d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À Vincent Chaudel, économiste du sport, Romain Hamelot, ostéopathe du sport et supporter, je ne dirais plus l'équipe premier. Philippe Spanghero, merci, notre consultant rugby. Et merci à Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade français, qu'on retrouve dans la matinale dimanche pour un débrief justement de cette finale. Les vraies voix du sport, c'est fini pour cette semaine. Vendredi prochain, vous retrouverez Philippe David, votre fidèle serviteur. Demain, c'est Laurence Garcia qui vous réveillera de 7h à 10h. Avant donc la finale de rugby à suivre avec Xavier Barré sur Sud Radio, je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse avec Yvan Cujuste et le Loft Music.